Il est un domaine de la santé qui fait une entrée surprenante dans le monde des applications, celui des soins psychologiques. De la dépression à la schizophrénie, en passant par l'insomnie ou les addictions, il est désormais possible de consulter un médecin depuis son téléphone portable. Notre dossier, en partenariat avec le magazine Cerveau et Psycho, s'intéresse donc à la cybersanté mentale avec ses applications mobiles à disposition pour en explorer donc ensemble les propositions et en montrer également les limites. Analyse critique de la situation dans un instant avec mes invités. Axel Villard, bonjour.
Bonjour.
À la une de la science aujourd'hui, une tablette d'argile qui fait le buzz et qui pourrait bien chambouler l'histoire de la trigonométrie.
Oui, l'interprétation nouvelle d'une tablette babylonienne vieille de 3700 ans qui divise les historiens des mathématiques. On tente, nous, d'appliquer le théorème de Pythagore comme un babylonien avec le mathématicien Étienne Gis.
Et c'est Fanny Boyon qui réalise cette tête au carré préparée aujourd'hui par Lucie Sarfati.
La tête au carré, les mercredis psy et philo, avec Mathieu Vidard sur France Inter.
La cybersanté mentale, ce sera donc le thème de notre dossier dans un instant avec mes invités que je salue, la psychiatre Fanny Jacques et Sébastien Bollaire de Cerveau et Psycho. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Fanny Jacques, faire une psychothérapie sans voir son thérapeute, c'est donc désormais possible?
Oui, tout à fait. On pourra voir son thérapeute, mais via un écran interposé. Je pense que l'alliance thérapeutique, la confiance que le patient peut mettre en son médecin peuvent se faire tout à fait à travers l'écran. Aujourd'hui, c'est possible.
Sébastien Bollaire, il faut rester quand même prudent avec ce marché des applications de la santé mentale.
Oui, parce qu'il y a effectivement deux choses. Il y a les consultations par Internet, où il y a un vrai psychothérapeute qui intervient. Et puis, il y a aussi toutes les applications qui prétendent, et qui parfois y arrivent en partie, vous donner des conseils en ligne de façon automatisée. Vous avez votre psychothérapeute dans la poche, c'est une chose différente. Mmh. Et c'est un marché en pleine explosion. C'est vraiment énorme. Et c'est difficile de faire le tri entre ce qui marche et ce qui ne marche pas.
C'est ce qu'on va faire avec vous. En tout cas, dans un instant, vous allez nous donner des clés. On sera également en ligne avec le chercheur en sciences sociales, Xavier Briffaut. Voilà, les auditeurs nous rejoignent avec certainement beaucoup de questions pour vous. Franceinter.fr et le mot-clé l'attaque pour y répondre. Est-ce que les Babyloniens utilisaient des tables de trigonométrie 1000 ans avant les Grecs? Question qui divise aujourd'hui à la une de la science.
Plimpton 322 est une tablette d'argile paléo-babylonienne vieille de 3700 ans et c'est une merveille scientifique du monde antique. On sait depuis des décennies que cette suite de nombres prouve que les Babyloniens connaissaient le théorème de Pythagore 1000 ans avant la naissance de Pythagore. Et même s'il y a un consensus sur ce que la tablette contient, on n'a aucune idée de ce à quoi elle servait. Nos recherches montrent que c'est une table de trigonométrie très originale et qui par certains aspects peut paraître supérieure à la trigonométrie moderne.
Et c'était la voix du jeune mathématicien Daniel Mansfield, co-auteur de cet article paru dans la revue Historia Mathematica. Pour parler aujourd'hui de cette tablette d'argile, découverte dans les années 1900 et qui fait beaucoup parler d'elle depuis quelques jours, Axel Villard, nous recevons le mathématicien Étienne Gis.
Bonjour Étienne Gis.
Bonjour, bonjour.
Alors vous êtes mathématicien, géomètre, amateur d'histoire des mathématiques et avec nous pour tenter de comprendre un peu la nature du débat autour de cette tablette Plimpton 322. Alors pour commencer, qu'est-ce qu'on peut voir sur cette tablette si on sait lire le calcul babylonien?
Écoutez, si vous me permettez, avant d'en parler, je voudrais parler un peu sur ce mot « buzz » qu'on vient d'entendre. C'est tout à fait intéressant. Quand on parle de mathématiques dans les médias, je suis très très content, toujours. Alors j'ai cherché le côté positif. Mais le côté négatif, quand même, c'est que il y a eu comme une opération de communication autour d'un article. On a entendu tout à l'heure un extrait de cette petite clip vidéo qui est un peu mensonger sur les bords. Et voilà, donc je suis très content qu'on parle de mathématiques, un peu moins que ça se passe à travers du buzz, quoi. Mais je sais que la tête au carré ne se fait pas fasciner par le buzz.
Mais vous allez... C'est pour ça qu'on vous a appelé, Étienne Gis, pour être critique de cette info.
En effet. Alors, cette tablette est assez merveilleuse dans le sens où elle contient une quinzaine de lignes, et sur chaque ligne, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui un triplet pythagoricien. Alors, peut-être que je peux vous rappeler le théorème de Pythagore, oui. Ou bien vous le connaissez tous.
Alors, peut-être ce qu'est un triplé, ou peut-être au passage, vous nous rappelez ce qu'est le théorème.
Alors, quand vous prenez, par exemple, un rectangle, le rectangle, il a une largeur, il a une longueur, et il a une diagonale. Ça fait trois nombres, et pour ça qu'on parle d'un triplé. Et le théorème de Pythagore, dont on parlait à l'instant, vous vous souvenez peut-être, dit que le carré de la diagonale est égal à la somme du carré de la hauteur et du carré de la largeur. Alors, voilà, ça le théorème de Pythagore.
Ce qui nous donne trois nombres, donc un triplet.
Voilà, exactement. Alors depuis très longtemps, on connaît des exemples où ça marche très bien, où les trois nombres sont tous les trois des entiers. Par exemple, 3, 4, 5. 3 au carré plus 4 au carré égale 5 au carré. Ça, c'est assez facile à trouver. Si je vous demande d'en chercher, vous trouverez probablement celui-là. Mais vous ne trouverez probablement pas le premier, là, qui est sur la ligne, la première ligne de la tablette, qui dit que 119 au carré plus 120 au carré égale 169 au carré.
Et cette tablette contient 15 lignes comme celle-là.
Et cette tablette contient 15 lignes qui représentent 15 triplés, 15 rectangles, dont les côtés sont des nombres entiers.
Alors, on parle de triplet pythagoricien, mais si Pythagore a vécu 2500 ans, il y a 2500 ans, c'est-à-dire 1000 ans après que cette tablette ait été gravée, on parle quand même de triplet pythagoricien.
Oui, alors, il y a une chose sur laquelle je voudrais insister aussi, c'est pour ça que le petit clip vidéo dont on a entendu un extrait au début m'agace un peu. Quand on dit le théorème de Pythagore était connu des Babyloniens, bien sûr, mais qu'est-ce que ça veut dire connaître un théorème ? Ça veut dire savoir qu'il est vrai et savoir le démontrer. Et il y a une grande marge entre le fait que les Babyloniens savaient qu'un rectangle de côté 3 et 4 a une diagonale de longueur 5. Mais je pense que le fait que c'est vrai et la raison pour laquelle c'est vrai n'était certainement pas accessible aux Babyloniens.
Alors, Étienne Gis, justement, si je suis Babylonien, il y a 3700 ans, je me mets devant cette tablette, à quoi elle pouvait me servir à l'époque exactement alors ?
Voilà, alors c'est toute la question que débattent les historiens. On a cette tablette, on peut se poser plusieurs questions. La première, c'est comment ces gens ont été capables de trouver ces triplets ? Et la deuxième question, c'est qu'est-ce qu'ils voulaient en faire ?
Oui.
Et alors, qu'est-ce qu'on peut en faire ?
Alors, qu'est-ce qu'on peut en faire ? Il y a plein de théories différentes. Il y en a qui disent que c'était une tablette qui servait pour des élèves scribes, pour apprendre à calculer, pour faire du calcul. Et cet article dont on est en train de parler, là, qui est sorti il y a quelques jours, propose que cette tablette était une tablette en quelque sorte à destination des architectes ou des maçons ou de ceux qui veulent construire une maison, un palais et qui ont besoin de fabriquer des murs bien verticaux et des salles bien rectangulaires.
Et donc, le fond du débat, c'est quoi ? Est-ce qu'ils étaient capables de produire les calculs qui aboutissent à ces triplés ou qu'est-ce qu'ils faisaient une fois qu'ils avaient ces triplés ?
Alors, il y a double débat. La question, qu'est-ce qu'ils faisaient une fois qu'ils avaient ces triplés ? Et la question qui est suggérée dans l'article dont on parle aujourd'hui, mais qui n'est étayée par aucune preuve, puisque il n'y a aucun argument, hein, mais c'est une possibilité. Et la question de savoir comment ils ont fait pour trouver ces triplés est une autre question tout à fait intéressante qui a été débattue et qui est encore débattue par les historiens des mathématiques. Comment est-ce qu'on, si je vous demande à vous, comment vous allez faire ? Je suis à peu près sûr que vous aurez du mal à trouver 119 au carré plus 120 au carré égale 169 au carré.
Je n'aurais aucune idée de comment chercher.
Voilà. Donc, le débat est là.
Et qu'est-ce qu'ils pensent vraiment avoir apporté de nouveau, ces deux chercheurs ?
Alors, ces chercheurs... il faut savoir que la tablette est incomplète. On pense qu'elle contenait 15 lignes, chacune ayant, si je me souviens bien, 8 colonnes, et il y a des colonnes qui manquent. Alors, les historiens ont tenté d'imaginer ce qu'il pourrait y avoir dans les autres colonnes, et les chercheurs en question ont constaté, en quelque sorte, que les rapports entre les côtés des triangles, des rectangles qu'ils ont considérés, que ces rapports s'écrivaient de manière relativement simple, dans le système sexagésimal qui était utilisé à l'époque. Donc ils ont l'impression, c'est pour ça qu'ils ont des phrases assez... Encore une fois, je suis très agacé, je vous le dis franchement.
Ah oh, oui, ça se sent.
Par l'extrait vidéo qu'on a entendu.
On a réussi à vous énerver, Étienne Gis.
Exactement, exactement. Donc par exemple, ils disent que c'est la seule table trigonométrique complètement exacte, ce qui fait sourire un mathématicien contemporain.
Ouais.
En fait, ils ont constaté que les rectangles qui correspondent à ces triplets pythagoriciens ont la propriété, en quelque sorte, que les rapports des côtés s'expriment de manière relativement simple dans le système sexagésimal.
On se sert encore aujourd'hui, Étienne Gis, de ce type de calcul
Alors, ou pas ? D'abord, le système en base 60, vous l'utilisez tous les jours dans votre votre horloge. Hein. Nous avons 60 minutes par heure. Mm-hmm. C'est pas pour rien. Hein, c'est pour cette raison. Et puis, par contre, le calcul trigonométrique, il est utilisé en permanence. Encore une fois, aujourd'hui, on clique sur une calculette et on a les sinus et les cosinus et les tangentes avec toute la précision dont vous pouvez rêver. Mais bien sûr, ces calculs restent omniprésents et très importants pour l'architecte, pour tout le monde en fait. Hein. C'est pour ça qu'on apprend ça à l'école. Hein.
Alors, juste pour une précision, vous avez dit que les auteurs se targuaient d'avoir une table de trigonométrie très précise, mais est-ce qu'il est vrai que cette table est plus précise que les tables grecques qui sont arrivées 1000 ans après ?
Alors, elle est plus précise. Je ne crois même pas qu'ils emploient le mot précis. Ils disent que c'est une table exacte.
Donc ça, c'est juste.
Ce qui leur plaît dans cette description, c'est que les sinus et les cosinus, pour employer la terminologie d'aujourd'hui, sont des nombres décimaux ou sexagésimaux ou je ne sais quoi, qui n'ont qu'un nombre fini de chiffres après la virgule. Alors que si vous prenez votre calculette aujourd'hui et si vous demandez combien vaut sinus de 13 degrés, votre calculette va vous sortir un nombre avec une infinité de décimales, enfin, va vous sortir une quinzaine de décimales, et si vous en voulez 100, vous en aurez 100, et il y en aura autant qu'on veut. Donc, en un certain sens, votre calculette vous donne un résultat approximatif. Mmh. Et ce qui plaît à ces auteurs, c'est que pour les angles bien particuliers qui sont choisis par les Babyloniens, il se trouve que les sinus et les cosinus sont des nombres décimaux, enfin pas décimaux mais sexagésimaux.
En tout cas, voilà comme une tablette d'argile babylonienne peut énerver un mathématicien contemporain.
Voilà, exactement.
Etienne Gis, merci quand même pour vos explications, parce que c'est vrai qu'on en a beaucoup entendu parler ces derniers jours, donc on avait quand même envie d'en savoir plus et d'avoir un avis plus critique grâce à vous. Merci beaucoup Etienne Gis.
Merci, au revoir.
À bientôt et merci Axel.
À demain.
À demain. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, les bébés nés prématurés qui vont de mieux en mieux chaque année en France, entre 50 000 et 60 000 enfants naissent prématurés, c'est-à-dire avant 8 mois de grossesse. Et selon l'INSERM, leur taux de survie au-delà de 2 ans a fait un bond de 6% en 20 ans, tandis que le taux de handicap moteur ou sensoriel a baissé de 7%. Selon cette même étude parue en août, le taux de survie des grands prématurés nés avant 26 semaines reste faible, avec 52% d'entre eux qui survivent, malgré les progrès des prises en charge et de l'accompagnement. Les ancêtres du groupe des baleines avaient des dents bien acérées et chassaient les poissons. Des chercheurs australiens ont analysé les dents de plusieurs ancêtres du groupe des cétacés à fanon, groupe qui comprend aujourd'hui les fameuses baleines bleues mangeuses de plancton. Ils concluent qu'elles sont longtemps restées des prédatrices et que, contrairement à certaines théories, leurs dents n'ont pas évolué lentement pour permettre la filtration du plancton. Ce mode de nourrissage serait apparu après la perte totale de leurs dents. Et puis dans le domaine des allergies, les hommes et leurs animaux de compagnie se ressemblent beaucoup. Réactions cutanées, diarrhées, démangeaisons ou crises d'asthme, ces symptômes ne se limitent pas aux humains. Les chiens, les chats ou même les chevaux peuvent présenter des réactions similaires aux hommes en présence des mêmes allergènes. Ce constat de l'Académie européenne des allergies et de l'immunologie montre aussi que la répartition des types d'allergies chez les hommes et leurs compagnons sont très comparables. Une preuve peut-être d'une exposition partagée aux mêmes facteurs environnementaux. Et dans un instant, la cybersanté mentale dans le dossier.
On est bien un peu de choses, et mon amie la rose me l'a dit ce matin. À l'aurore, je suis née, baptisée de rosée, je me suis épanouie, heureuse et amoureuse, au rayon du soleil, me suis fermée la nuit, me suis réveillée vieille. Pourtant, j'étais très chose, et mon amie la rose me l'a dit ce matin. Vois le Dieu qui m'a fait. Yeah. de choses et mon ami la rose est morte ce matin. La lune cette nuit a veillé mon ami. Moi en rêve j'ai vu éblouissante et nue son âme qui dansait bien au-delà de nuit et qui me souriait. Crois celui qui peut croire, moi j'ai besoin d'espoir, sinon je ne suis rien. On est bien peu de choses et mon ami la rose me l'a dit ce matin. Vois le Dieu qui m'a fait courber la tête et je sens que je tombe et je sens que je tombe. Mon cœur est presque nu, j'ai le pied dans la tombe, déjà je ne suis plus. Tu m'admirais que hier et je serai poussière pour toujours demain.
La voix de Natacha Atlas à l'instant.
La tête au carré, Mathieu Vidard.
Et la cybersanté mentale au cœur de notre dossier cet après-midi avec le magazine Cerveau Psycho qui consacre un grand dossier justement à ce thème pour explorer ce marché du soin psychologique qui s'ouvre au public. Il est en plein essor. Pour en parler, vous êtes avec nous, Fanny Jacques. Vous êtes psychiatre et fondatrice de la plateforme de consultation psy en ligne DoctoConsult. Sébastien Boller, vous êtes le rédacteur en chef de Cerveau et Psycho. Et puis en ligne avec nous, Xavier Briffaut, que je salue. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur en sciences sociales de la santé au CNRS au sein du laboratoire CERMES 3. Et les auditeurs nous rejoignent avec les messages et les questions pour découvrir peut-être ce domaine de la santé. Sébastien Boller, justement, la e-santé mentale, c'est en plein essor. Est-ce que ça n'est pas d'abord un tabou qui saute dans ce domaine où le contact direct entre le patient et le thérapeute semble absolument essentiel?
Alors, est-ce que c'était un tabou? Je ne sais pas. En tout cas, c'est une vraie évolution. Et oui, peut-être qu'on est en train de se dire, d'ailleurs la plupart des gens avec qui on discute de ce sujet, je le vois aussi bien à la rédaction du journal qu'avec les gens avec qui vous pouvez être amené à discuter de ça, la réaction c'est souvent, mais comment? Vous pouvez pas être soigné si vous avez une dépression, si vous avez des troubles anxieux, par une machine, entre guillemets. Oui. Il faut un contact humain, ça a toujours été l'ingrédient de base de la relation thérapeutique, et il reste essentiel. Donc, effectivement, il faut évoluer un peu sur cette question parce que le réflexe en général, c'est de se dire que c'est pas possible. Et on est assez surpris quand on constitue un dossier comme ça, de se rendre compte que des professionnels, donc comme Fanny Jacques, comme d'autres, vous disent, ben non, ça marche, ça peut marcher bien. Ouais. Même dans certains cas, ça marche un peu mieux. C'est assez surprenant. Et il faut toujours bien distinguer les technologies hybrides ou qui allient toute la technologie de l'informatique et du numérique avec la présence d'un vrai thérapeute. Et d'un autre côté, les vrais automates et les applications en tant que telles.
Et donc les smartphones, en l'occurrence, et les applications, pour permettre justement d'aller à la rencontre de ces médecins via donc la technologie. Fanny Jacques, vous avez le sentiment d'avoir franchi justement une frontière avec ces nouveaux outils?
Alors sur les applications, je pense comme vous le disiez, il y a différents types d'applications. Il y a les applis qui prétendent peut-être en effet soigner, diagnostiquer, soigner. Et je pense qu'on va en parler. Donc là, en effet, il y a peut-être une frontière en train de se franchir. Mais il y a aussi les applications qui vont finalement augmenter la puissance de prise en charge du patient par son médecin généraliste, par son psychiatre, qui vont venir en complément d'un suivi. Et là, finalement, c'est vrai que la frontière est franchie, mais c'est finalement ce qu'on faisait peut-être déjà. Moi, avec mes patients, je suis connectée par mail, par SMS. Je suis déjà une application sur pattes, à moi toute seule. Et donc, finalement, ça n'est que la prolongation de ce système-là. Lorsqu'on a des applis qui vont venir nous remonter des données ou compléter le suivi. Mais c'est vrai que c'est c'est important que ce soit quand même débriefé, je trouve, avec le médecin.
Xavier Briffaut, vous avez le sentiment qu'on est simplement dans le prolongement, effectivement, d'habitudes qui existaient déjà auparavant ?
Alors, pour le moment, c'est vrai que dans le domaine des applications santé mentale, on a surtout des transpositions de ce qui se fait déjà. C'est-à-dire que on a automatisé, en gros, des types de thérapies qui étaient déjà très protocolisées, hein, le plus souvent dans la lignée des thérapies cognitives et comportementales, alors qui, bien évidemment, font appel à l'alliance thérapeutique, à la relation avec le thérapeute, mais qui sont quand même assez manuelisées, hein, c'est-à-dire qu'elles sont décrites dans des manuels. Donc c'est assez facile de les transposer dans des applications, que ce soit sur le web ou sur smartphone, ou maintenant sur des objets connectés, des montres connectées. Mais on peut penser que ce n'est que le début de ce qu'on va pouvoir faire avec ces nouvelles technologies. C'est-à-dire que pour le moment, on a des applications génériques qui ciblent des troubles génériques pour des personnes génériques, si je puis dire. Mais bientôt, on va avoir des choses beaucoup plus sophistiquées qui vont tenir compte de la singularité de la personne, de sa situation, de ses fonctionnements psychiques. Et quand on aura ça, on aura vraiment quelque chose qui va dépasser ce qu'on a actuellement pour aller vers quelque chose qu'on n'a pas encore vu dans le domaine des technologies médicales et de santé.
Sébastien, est-ce que justement aujourd'hui, ces applications sur smartphone permettent aussi à un nouveau public, on pourrait dire, de consulter ?
Je crois que c'est un des enjeux principaux. C'est que d'une part, une grande partie des personnes qui souffrent de troubles psychologiques, psychiatriques ne sont pas prises en charge. Et ça, les chiffres vont de 35% dans les pays d'Europe occidentale jusqu'à 80% dans les pays en voie de développement.
Qu'est-ce qui freine justement ça ?
Il y a d'une part le service de santé existant lui-même, la couverture de la population en termes de soins, de réseaux de psychiatrie. Et puis peut-être aussi des réticences d'ordre culturel, la pauvreté, enfin il y a toute une série de facteurs. La culture, voilà, la culture médicale, le fait de se dire je suis en souffrance, je vais voir un médecin, c'est pas toujours automatique. Et puis il y a aussi la timidité, la peur peut-être de franchir le pas, alors que c'est vrai, c'est une chose qui a marqué l'arrivée du numérique et des smartphones dans notre vie, c'est que tout le monde pratiquement en a un. Y compris dans les couches sociales les plus défavorisées, qui ont peu de moyens financiers, c'est toujours quelque chose qui existe, qui exerce un attrait et avec lequel on tisse une relation de familiarité et de confiance automatiquement. Donc ça peut effectivement ouvrir une vanne et peut-être aussi donner lieu à des débordements ou un manque de vigilance aussi.
Fanny Jacques, est-ce que ces nouvelles pratiques font grincer des dents au sein même de votre profession de psychiatre ?
Je suis bien placée pour en parler puisque moi-même, effectivement, là, avec ce site qui va sortir sous peu, nous faisons un petit peu grincer des dents.
DoctoConsult, donc.
DoctoConsult, tout à fait. Donc, qui, lui, sera un site véritablement de visioconsultation en ligne avec des médecins psychiatres. Oui, ces nouvelles pratiques font grincer des dents parce que, comme vous le disiez, je pense, on n'a pas l'habitude. C'est peut-être encore tabou et on est finalement agréablement surpris soi-même moi-même j'ai été surprise par le propre système que j'avais créé, de voir à la fois l'efficacité, la compliance, le lien thérapeutique qui se faisait, mais il faut le tester pour
ça représente quoi comme part dans votre pratique quotidienne aujourd'hui?
Les applications, je vais parler de DoctoConsult et des applications, ce sont deux choses différentes. Les applications, moi, je vais les conseiller vraiment en complément, comme je le disais, d'un suivi. Parce que je m'appuie sur la thérapie comportementale et cognitive et en fait ça rend juste plus ludique un travail que je demandais déjà aux patients de faire par écrit, par la tenue d'un cahier. Là il va pouvoir le faire via une application, c'est plus sympa, c'est moins fastidieux.
Et
il me fait un compte rendu. Donc ça c'est assez fréquent que je l'utilise. La visioconférence, je pense que actuellement je dois faire à peu près une consultation sur 5, je dirais, en consultation en visio.
Et ça, c'est une demande de gens qui sont loin de Paris, par exemple ?
C'est une demande de mes patients. En fait, c'est comme ça que l'idée m'est venue. C'était vraiment pour pallier à un besoin, à une demande. Des gens qui sont loin de Paris, et notamment pas forcément en province, mais en grande banlieue parisienne. Moi, je suis dans Paris intramuros. Je vois des patients qui mettent 1h30 de temps de trajet aller, puis retour pour venir me consulter. Donc, en grande banlieue. Puis des patients qui, pour une raison X ou Y, ne peuvent pas se déplacer de façon temporaire, notamment les grossesses. Moi, je travaille avec les maternités. maternité, mais parce qu'ils sont phobiques sinon, qu'ils ne peuvent pas prendre les transports, qu'ils partent en déplacement régulièrement.
On va écouter ensemble un extrait des Sopranos, extrait de la saison 1 et de l'épisode 1.
Le but de cet exercice est de prendre conscience de vos mouvements respiratoires.
Alors ça, c'est pas les Sopranos, on va l'entendre dans un instant puisque c'est extrait d'une application dont on va parler tout à l'heure, Emoteo, mais j'aimerais qu'on entende d'abord les Sopranos.
Je vous en prie, asseyez-vous. D'après votre médecin de famille, j'ai cru comprendre que ces derniers temps, vous vous étiez évanoui à la suite d'une angoisse subite et que vous ne pouviez plus respirer.
Ce sont eux qui ont parlé d'angoisse parce que tous les examens et autres analyses n'ont rien mis en évidence. C'est ce qui fait que je suis là.
Vous refusez d'admettre que ça puisse être de l'angoisse. Comment vous vous sentez, là?
Bien. Ça va. Je suis reparti. Il est vraiment difficile pour moi de parler à un analyste.
À votre avis, qu'est-ce qui aurait pu vous faire tomber dans les pommes?
J'en sais rien. Le stress, peut-être.
Sébastien, dans le cas d'une psychanalyse, alors là, je pense que c'est le tabou des tabous, hein, probablement d'avoir recours à une visioconférence, non? Est-ce qu'on peut imaginer un jour que ça existe?
Alors, je crois que c'est un des contextes dans lequel c'est pas forcément idéal. Mais vous me confirmerez peut-être,
Fanny Jacques.
Oui, parce que tout c'est, à fait, je confirme.
Il y a un dispositif...
La présence, le divan.
La présence, le divan, l'ambiance, être dos à son thérapeute, enfin tout un tas de dispositifs qui font aussi en elle-même la thérapie. Et évidemment, la visioconsultation, là, pour le coup, va atteindre des limites. Il y en a, bien sûr.
Ouais. Allez, on se retrouve dans un instant pour poursuivre la discussion avec les messages des auditeurs, franceinter.fr et les réseaux, avec le mot-clé l'attaque. Bon après-midi avec la tête au carré.
Sur la plage, coco,
Et c'est Julien Doré.
La tête au carré sur France Inter.
La e-santé mentale avec les applis qui soignent et les psys en ligne. C'est à la une du magazine Cerveau et Psycho qui arrive dans les kiosques en ce début de rentrée. Et mes invités pour en parler, Fanny Jacques qui est psychiatre, Xavier Briffaut, vous êtes avec nous, chercheur en sciences sociales par téléphone, et puis Sébastien Boller de Cerveau et Psycho. Alors justement, Xavier Briffaut, parlons d'abord des applications. Il en existe beaucoup, énormément, ça explose hein, dans ce domaine de la santé mentale. Comment faire pour s'y repérer devant cette offre ?
Oui, des milliers, voire des dizaines de milliers d'applications. Ça, il en sort de nouvelles à un rythme effréné. Alors, oui. Elles sont produites par différentes sortes de fournisseurs. Hein. Ça va du développeur individuel à l'université, à des équipes de chercheurs reconnus. Donc, c'est très difficile de s'y retrouver. Alors, en France, la Haute Autorité de Santé vient de sortir un avis, un rapport, dans lequel on va trouver un certain nombre d'interrogations à se poser. De questions à se poser avant d'utiliser et de choisir une application en santé mentale. Donc ça, c'est, je pense, nécessaire de développer une culture personnelle de l'évaluation avant d'utiliser ces applications, parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer ? On va être amené à suivre des recommandations, alors des avis d'experts, des avis d'autorités de certification, mais pour le moment, il y a toute une compétition de la certification, donc c'est difficile de se fier à une seule certification. L'idéal, c'est quand même d'aller regarder les choses qui ont été publiées sur l'application qu'on va utiliser. Alors ça, c'est assez facile aujourd'hui d'accéder aux publications scientifiques, bien que malheureusement, souvent, elles sont en anglais. Mais c'est également possible de traduire un peu automatiquement les articles si on ne lit pas l'anglais. Donc ça, c'est vraiment important de développer une culture personnelle de l'évaluation, une capacité critique, une capacité de compréhension des applications, arriver à comprendre sur quelle théorie elles se fondent, qu'est-ce qu'elles proposent exactement, quel est leur périmètre d'intervention, quelles sont leurs indications, qu'est-ce qu'on peut en attendre en termes d'efficacité. Parce que sinon, on va être soumis au marketing effréné qu'on observe dans ces domaines-là. Parce que c'est un domaine extrêmement intéressant pour les fournisseurs, évidemment, hein, puisque quand ils viennent nous proposer des applications gratuites, c'est pas seulement pour le bénéfice de l'humanité, c'est aussi et souvent surtout pour recueillir des données sur les personnes qui les utilisent et construire des profils individualisés.
Alors Sébastien, justement, dans Cerveau Psycho, vous donnez des clés pour évaluer la qualité de ces applications. Hein. Vous nous avez un peu simplifié la tâche.
Oui, alors c'est ce que vient de dire Xavier. Il faut alors soit s'en remettre effectivement à ces documents de la Haute Autorité de Santé.
Sont vraiment pas amusants à lire.
Qui sont pas amusants à lire. Il y a aussi, il y a les sites de la Communauté européenne. Dont on communique l'adresse à Internet, qui permettent cette fois-ci de façon un peu plus simple de vérifier quelles applications sont certifiées. Et puis pour le reste, moi j'ai de plus en plus l'impression, en fait, et je rejoins ce que disait Fanny Jacques, c'est que le médecin va devenir de plus en plus important, parce que ce que disait Xavier Briffaut, c'est en fait le grand problème qu'on a face à Internet aujourd'hui, c'est que dans tous les domaines, pour la santé mais aussi pour la politique, pour l'information, ça devient très difficile de savoir à quelle source faire confiance. Donc avoir un référent pour se guider dans cette jungle, ça devient de plus en plus essentiel. Et je crois que le psychiatre ou le médecin traitant, ou les deux, vont avoir un rôle essentiel pour justement essayer d'amener ce patient qui parfois n'a aucune culture scientifique ou médicale à se poser ce genre de questions.
Mais est-ce qu'il ne faut pas s'inquiéter quand même, Fanny Jacques, de voir des applications qui concernent des pathologies lourdes quand même hein ?
Si, tout à fait. C'est ce que j'évoquais en début du sujet.
L'addiction à l'alcool, la dépression, l'anxiété, le stress, les troubles de la personnalité. Enfin, est-ce que
il y a des applications qui vont être des outils complémentaires de soins, et il y a des applications qui prétendent diagnostiquer et soigner, et notamment en effet la schizophrénie, des pathologies lourdes. Et là, ça me semble
attention.
Être, attention.
On est d'accord. On voit des choses complètement exotiques. On cite dans l'article l'exemple d'une application pour la bipolarité qui vous dit en cas de crise, buvez une grosse dose d'alcool. Enfin, il y a des choses qui arrivent. Et si on ne sait pas, on le fait. Puis
Alors là, par exemple, il y a une application pour l'addiction à l'alcool. Hein. Avertit l'utilisateur en cas de proximité d'un bar, l'informe sur les dangers de l'alcool, lui donne des outils pour évaluer sa consommation. Mais c'est insupportable, ça, non ?
Alors, disons que c'est à double tranchant.
Parce que pour quelqu'un qui a un problème avec l'alcool, voilà. Si à chaque fois qu'il passe à côté d'un bar, on lui bip.
Ça peut réveiller sur le plan cérébral, évidemment, l'envie d'alcool à chaque fois que son téléphone bip. Et ouais. Puis, ça peut être détourné, c'est-à-dire qu'on peut utiliser cette application pour
aller dans
un bar
le
ouvert,
plus proche.
le plus proche de chez soi.
Exactement. Xavier Briffaut, un commentaire sur ce type d'exemple, quand même, qui laisse songeur, non?
Oui, absolument. Alors, en même temps, c'est pas tellement spécifique des applications numériques, hein. C'est-à-dire que, là, le problème, c'est que le contenu initial est erroné. Donc ça, on le trouve aussi bien dans les livres d'autosupport ou dans différentes méthodes. Donc bon, là, c'est pas tellement le problème des applications numériques en tant que telles. Mais je suis d'accord avec à la fois ce que Stéphanie Jacques et Sébastien Bollard. C'est-à-dire que actuellement, les applications se développent beaucoup sur le mode, on va dire, de l'autosupport, presque de l'automédication. Mmh. Donc ça, c'est avantage, évidemment, mais ça a quand même beaucoup d'inconvénients. Il faut beaucoup de compétences pour pouvoir avoir recours à des dispositifs d'automédication, d'autosupport. Et par ailleurs, un peu par définition, les troubles mentaux, ça altère beaucoup des facultés de raisonnement, de concentration. Ça entraîne tout un tas de biais cognitifs, émotionnels. Donc là, le rôle du médecin va être, du médecin, pas seulement, du psychologue, de toutes sortes de professionnels de santé, va être absolument critique dans l'accompagnement et dans l'intégration de ces outils dans la relation thérapeutique qu'ils vont entretenir avec leurs patients.
Alors Fanny Jacques, on va écouter là dans un instant un extrait d'une application qui s'appelle Emoteo. Ça consiste en quoi? Alors finalement, on imagine, on est au supermarché et puis tout d'un coup on a un petit coup de blues. On peut sortir son téléphone portable et aller sur cette application?
Tout à fait.
Entre rayons de supermarché?
Emoteo, c'est la météo émotionnelle. Elle est vraiment sympa cette application. Alors en effet, moi je la conseille à mes patients. Pareil, en complément, mais ça leur permet de tenir un petit journal. Et en effet, petit coup de mou, petit coup d'angoisse, on sort l'application et on va choisir de visualiser une image apaisante, de faire un exercice de relaxation. On note tout ça et ensuite le médecin a accès aux différentes données.
Alors écoutons par exemple ce qu'on peut recueillir comme propos de la part de cette application.
Le but de cet exercice est de prendre conscience de vos mouvements respiratoires, des sensations de votre corps, de vos émotions et de vos pensées présentes maintenant. Puis, dans un deuxième temps, d'élargir votre conscience à votre environnement immédiat. Commencez par chercher un endroit calme et installez-vous confortablement en position assise. Vous pouvez mettre votre smartphone sur pause le temps de vous installer. Observez ce que vous ressentez. Vous pouvez aussi, mais ce n'est pas obligatoire, ressentir une ou des émotions. Notez-les en observant comment elles s'expriment au niveau corporel.
Voilà, donc ça, Sébastien, évidemment, c'est pas forcément au supermarché qu'on va pouvoir écouter ça, mais plutôt tranquillement chez soi. Oui, on est d'accord.
Oui, 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 non, mais quand même, c'est un des avantages des applications, c'est qu'elles peuvent être utilisées en temps réel et au moment où les problèmes aigus du trouble psychique peuvent survenir. L'exemple typique qu'on cite dans le dossier, c'est le syndrome de stress post-traumatique. Vous savez, donc c'est un syndrome qui comporte un certain nombre d'expressions corporelles chez les personnes qui ont été traumatisées, notamment dans des scènes de guerre ou d'accidents, qui font que vous avez des résurgences d'émotions très négatives qui peuvent survenir à n'importe quel moment. Donc justement, par exemple, vous êtes dans la file du supermarché et puis vous avez une crise d'angoisse, une crise de panique, et là, là, il n'y a pas le psy à proximité, mais vous pouvez sortir, dégainer votre application. Et alors cette application, il y a une application connue qui vient des États-Unis qui s'appelle PTSD Coach, qui a été évaluée pour le coup dans 86 pays, il y a eu plus de 150 000 téléchargements, ça a été bien évalué et c'est efficace pour le coup. Ouais. Donc parce que vous avez des conseils concrets sur d'une part vous informer de ce que c'est que ce syndrome, parce que beaucoup de gens ont été dans des parties du monde sur des théâtres de guerre ou de traumatisme, ne savent absolument pas ce qui leur arrive quand ces émotions négatives sur. Donc d'une part pour les informer, à dire voilà, c'est pas que vous êtes fou, c'est que vous êtes victime de cette chose-là. Et ensuite, voilà, quels sont les petits réflexes que vous pouvez mettre en œuvre en live, en direct, quand ça vous arrive, des choses très simples sur la gestion des émotions, essayer de penser autre chose, des images mentales positives, ou même aller regarder des vidéos sur YouTube pour vous détourner de ce qui est en train de faire revenir l'angoisse. Voilà.
Mais Fanny Jacques, est-ce qu'il n'y a pas quand même un petit côté doudou virtuel dans tout ça? Est-ce qu'il n'y a pas un danger pour des personnes qui ont déjà une propension à beaucoup tourner autour de leur nombril, non? Et qui vont sortir le smartphone toutes les 5 minutes?
Alors, en effet, il ne faut pas oublier que la population qui est face à nous, c'est une population vulnérable, déjà par essence. Et donc, oui, il y a un effet aussi doudou, un effet placebo, forcément, mais comme une partie de la psychothérapie, probablement, est placebo. Et quand un patient va me faire un long mail ou un long SMS et que je vais pas forcément avoir le temps de répondre en long et en large, mais que je vais lui dire « Ok, bien reçu, on en parle la semaine prochaine », je sais que ça va suffire pour le rassurer. On peut déjà parler, je pense, d'effet placebo. Encore une fois, tout dépend de l'utilisation que l'on en a.
Allez, on se retrouve dans un instant pour la dernière partie de ce dossier.
Água corre sobre a pedra, viu que descarrega. O ouro nem sempre doura a pele, a luz nem sempre é veloz. Todo verde é transparente e treme ao vento. O dia alto e bate palma. Cai a noite, esconde a voz. O seu pai era bandido, mas você apareceu. O seu pai era bandido, mas você apareceu. Nunca é um dia uma vez. Nunca mais uma coisa só. Nunca é um de uma vez. Nunca mais uma coisa só. Nunca é um de uma vez. Nunca mais uma coisa só. Água corre sobre a pedra, viu que descarrega. O ouro nem sempre doura a pele, a luz nem sempre é veloz. Tudo verde é transparente e treme ao vento. O dia é alto e bate palma. Cai a noite, esconde a voz. O seu pai era bandido, mas você apareceu. O seu pai era bandido, mas você apareceu. Nunca é um de uma vez. Nunca mais uma coisa só. Nunca é um de uma vez. Nunca mais uma coisa só. Nunca é um de uma vez. Nunca mais uma coisa só. Nunca é um de uma vez. Nunca mais uma coisa só.
La tête au carré sur France Inter.
Voilà les applis qui soignent, vos questions à nos invités, franceinter.fr et le mot-clé, l'attaque, pour peut-être vous renseigner sur ces psys en ligne avec différents outils qui sont à la disposition, les applications smartphone et puis également les visioconférences avec l'exemple de DoctoConsult, une plateforme de consultation psychiatrique, Fanny Jacques, dont vous êtes à l'origine. Ouverture le 25 septembre. Vous avez déjà rodé un petit peu le dispositif là tout au long de l'année?
Oui, tout à fait. Ça fait environ 12 mois que des collègues et moi-même testons cette plateforme dans sa version bêta. Mmh. Et justement, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, les retours sont positifs à la fois des patients et des médecins. C'est pour ça qu'on a fait une version un petit peu plus élaborée qui ouvrira au public.
Et donc, on le disait tout à l'heure, vous avez répondu à une véritable demande aussi de la part des patients.
Oui, à la base, je suis allée voir l'Agence régionale de santé pour répondre à la demande des patients qui ont du mal à se déplacer ou qui, au contraire, se déplacent beaucoup fréquemment et qui ont du mal à suivre une thérapie de façon régulière, qui partent en Erasmus pour les étudiants, qui ont des temps de trajet qui sont longs, qui vivent dans des zones blanches médicales. Donc c'était pour répondre à ce besoin.
Est-ce que vous êtes capable d'évaluer si justement le fait de recourir à une visioconférence modifie aussi la parole du patient par rapport à une consultation classique en cabinet ?
Alors pour ma petite expérience personnelle là de cette année, ces 18 mois que j'ai eu, alors je reçois en ligne des patients que je n'ai jamais vus parce qu'ils habitent pour le coup loin. Mm-hmm. Donc là c'est difficile pour moi de vous répondre, mais j'ai quelques patients que je vois par exemple une fois sur deux au cabinet, une fois sur deux en ligne parce qu'ils habitent assez loin. Mm-hmm. Et alors oui, les choses qu'on se dit face à un écran, ce ne sont pas du tout les mêmes choses qu'on se dit au cabinet. Et assez paradoxalement, on se confie plus face à l'écran.
C'est vrai.
Et les thèmes abordés ne sont pas forcément repris lors du face-à-face. Les thèmes de l'écran sont les thèmes de...
Ça vous a surpris ou pas, ça, justement?
Tout à fait, oui, ça m'a surpris. Il y a des sujets tabous, les infidélités, par exemple, pour ne citer qu'eux, sont des sujets qu'on va plutôt aborder à travers l'écran. C'est une petite barrière de protection.
Sébastien, des chercheurs canadiens ont évalué les avantages, je crois, de la consultation en ligne, en comparant même l'amélioration des symptômes par rapport justement au traitement en face-à-face. Donc il y a quand même des études là-dessus qui commencent à arriver petit à petit, même si elles ne sont pas très nombreuses.
Oui, alors, et il n'y a pas beaucoup d'études, c'est un peu le problème. C'est que, par exemple, vous prenez le cas de la dépression, il y a aujourd'hui plus de 1500 applications pour la dépression. Il y a eu 32 études scientifiques d'évaluation de l'efficacité. Voilà, donc c'est le gros manque actuellement. Mm-hmm. Après, effectivement, au coup par coup, il y a des études qui parfois sont de grande envergure. Je citais celle pour le syndrome de stress post-traumatique. Il y a aussi des études dont vous parlez, Fanny Jacques, dans votre article sur la dépression en ligne versus en live. Et vous dites même que dans certains cas, les patients ont des améliorations encore un petit peu supérieures en visioconférence par rapport à la vraie consultation. Oui.
Tout à fait. Ce qui s'expliquerait sans doute par le fait que en visioconsultation, finalement, on est plus focus sur ce qui nous amène à consulter. En consultation en face à face, finalement, on va se disperser, parler un peu de la pluie et du beau temps, parler de généralité, ce qu'on ne fait pas pendant le temps de la visioconsultation.
Clément demande sur Twitter, est-ce que le conseil judicieux ne serait pas de n'utiliser que les applications conseillées par un soignant qui les a d'abord validées ?
Idéalement, bien sûr, ça serait le cas.
Xavier Briffaut.
Oui, pour répondre à cette question, en fait, on peut s'appuyer sur l'application Emoteo qui a été présentée parce que c'est un bon exemple d'une application intéressante. Hein. Donc, ça a été développé par une équipe de chercheurs suisses. Ça a une indication très claire, les troubles limites de la personnalité, c'est-à-dire des situations de dysrégulation émotionnelle très sévère, avec une très grande variabilité de l'humeur, des affects et des passages à l'acte impulsif. C'est une application qui se fonde sur une théorie très solidement établie, en l'occurrence la thérapie comportementale dialectique. Elle a été conçue pour intervenir en complément de l'équipe de thérapeutes, parce que dans la thérapie comportementale dialectique, le modèle standard, c'est que l'équipe de thérapeutes est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc évidemment, ça peut pas être toujours le cas. Donc pour le moment, l'application, comme on l'a vu, nécessite que la personne l'utilise, décide par elle-même de l'utiliser. Mais ce qui est intéressant, ce sont les nouveaux travaux que commence cette équipe de chercheurs pour faire en sorte que l'application intervienne de façon proactive. Mmh. C'est-à-dire que par exemple, un état de stress aigu, un état de tension émotionnelle fort, une amorce de passage à l'acte, ça peut se détecter sur un certain nombre d'indicateurs comportementaux. Alors ça peut être des mouvements qui deviennent saccadés, ça peut être le ton de la voix qui change, ça peut être le contexte qui est évocateur d'un problème connu. Et ça, on va pouvoir le détecter, par exemple, avec une montre connectée qui contient un actimètre, qui contient un micro qui peut analyser la voix, qui sait à qui est en train de parler la personne, à qui elle est en train d'un seul coup d'envoyer plusieurs dizaines de SMS frénétiques. Et à ce moment-là, l'application va pouvoir proposer de façon proactive quelque chose pour réduire la tension et les risques de passage à l'acte. Et ça, c'est vraiment extrêmement important parce que, par exemple, dans le cas des troubles de limite de la personnalité, ils sont très suicidogènes. Donc le passage à l'acte peut être extrêmement grave. Donc toute intervention qui va réduire le plus tôt possible la tension et le stress aigu va pouvoir éviter des passages à l'acte graves. Donc ça, à mon avis, c'est une des choses qu'on va voir apparaître dans les applications. C'est une sensibilité au contexte, à la situation et à un certain nombre de marqueurs comportementaux qui vont faire en sorte que l'application pourra intervenir de façon proactive. Et ça, actuellement, on l'a jamais fait encore.
Sébastien, c'est quoi l'avenir dans ce domaine de la e-santé mentale? Ça va beaucoup évoluer, a priori?
Oui, ça va beaucoup évoluer parce que on est au début, tout simplement, et que l'outil est énorme. Et alors, l'exemple que citait Xavier Briffaut, à mon avis, est essentiel. C'est effectivement, vous avez aujourd'hui des applications qui proposent rapidement des interventions, qui mettent en relation le patient avec une équipe de soins. Mmh. Et puis aussi, un des débuts d'outils diagnostiques, c'est-à-dire, vous pouvez avoir des applications qui vont analyser un petit peu la teneur de vos messages que vous envoyez soit par mail, soit sur Twitter, qui peuvent voir soit une modification de la fréquence des messages que vous envoyez, qui peut être un signe de variation d'humeur. Les outils statistiques doivent être beaucoup améliorés, mais a priori, ça peut être un moyen, effectivement, d'être une aide au diagnostic et de fournir aussi aux médecins, aux soignants, des données en continu sur, par exemple, l'état d'humeur du patient tout au long de sa semaine, ce qui est actuellement impossible à avoir. Donc ça, ce lien-là peut être très très fort. Et puis, il y a évidemment l'avenir. L'avenir, c'est la récupération commerciale de tout ça, tout simplement, parce que ça, dès qu'on met le pied
dans le mauvais côté, effectivement, de ces applications.
Vous pouvez avoir le transfert des données personnelles. Il y a le Collège impérial de Londres qui s'est penché sur la question, sur 35 applications qui étaient répertoriées par le système de santé britannique comme étant des applications intéressantes d'un point de vue thérapeutique. Et il y a 35 applications qui faisaient vraiment du transfert de données sur Internet non cryptées, des données patients.
Donc, sur des données, d'ailleurs, Xavier Briffaut, et c'est là tout le problème, qui sont quand même domaine de l'ultra intime.
Des données ultra intimes. Et aujourd'hui, n'importe quel smartphone, n'importe quelle montre connectée est capable d'analyser les cycles de sommeil, l'activité, la tonalité de la voix, le lieu où la personne se trouve, à qui elle parle, qu'est-ce qu'elle dit, analyser le contenu des textes, bientôt faire de la reconnaissance vocale pour analyser le contenu des conversations. Donc, avec ça, et si par ailleurs la personne croise ça avec ses données d'analyse biologique, soit qu'elle les rentre, soit qu'elle s'interface avec le système du laboratoire, bon, on va pouvoir avoir la totalité du fonctionnement du personne, de chacun de ses globules, si je puis dire, jusqu'à ses comportements en société. Donc là, il y a un potentiel à la fois thérapeutique et d'analyse fabuleux, mais il y a un potentiel de risque gigantesque, énorme.
Fanny Jacques, pour terminer, est-ce que vos confrères sont formés aujourd'hui à ces nouveaux outils? Est-ce que ça modifie aussi le parcours de l'apprentissage du psychiatre?
Alors en tout cas, pour le site DoctoConsult, on propose une formation en télémédecine pour la pratique de la télémédecine, puisque c'est important d'avoir un environnement calme, neutre, et il y a certaines pratiques qui sont nécessaires. Je pense que les étudiants en médecine, j'espère que ça va être quelque chose, la télémédecine, qui va peut-être pouvoir être étudiée, parce que ça demande une pratique spécifique. Quant aux applications, non, là je crois que c'est un petit peu le Far West et que... Pour le moment, chacun y va de son conseil, de sa propre pratique, échange sur le sujet, mais je pense que ça manque un petit peu en effet en termes de formation aussi.
Merci beaucoup en tout cas à tous les trois, avec donc ce numéro de Cerveau et Psycho sur les applis qui soignent et autres psy en ligne. C'est en kiosque en ce moment, Sébastien Bollaert, pour découvrir donc ce nouveau marché aussi qui explose des applications et de la e-santé mentale. Merci beaucoup à tous les trois.
Merci.
Voilà, c'est terminé pour cette tête au carré. Merci beaucoup à Thierry Dupin qui signait aujourd'hui la programmation musicale de l'émission.